marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30. Le thème de nos rediffusions cette semaine, combattre.
Qu'est-ce que l'histoire ? C'est un voyage dans le passé en enfilant la peau des autres pour se mettre à leur place.
La guerre des paysans.
Nous, ce qu'on fait là. Écoute, ma petite, nous, si on est là, c'est qu'on a de bonnes raisons d'être là. Parce que nous, on est des paysans révoltés. Enfin, un paysan, moi, parce que lui, il est cordonnier d'Auvergne, en plus. Enfin, ça ne fait rien. Lui, moi et tous les autres, on en a ras-le-bol. Jusque-là, tu comprends? Alors, à partir d'aujourd'hui, terminé.
Alors, on veut aller libérer les deux prédicateurs évangéliques qui sont venus nous enseigner la vraie parole du Christ, qui dit que ce n'est pas la volonté de Dieu que de pauvres gens comme nous soient plus maltraités que du bétail.
1525, au sud du Saint-Empire romain germanique, les paysans, et aussi ceux qui s'associent à leur combat, s'assemblent. L'alarme retentit de toutes parts, en Souabe et aux alentours du lac de Constance, au Tyrol comme en Thuringe, en Alsace, du nord au sud et en Forêt-Noire. Le langage parlé par les insurgés est celui de l'écriture, qu'à cet instant précis, Luther et d'autres prédicateurs réformés sont en train de traduire en langue vernaculaire. L'un d'eux, Thomas Münzer, n'est plus des amis de Luther quand il se porte en tête du mouvement. Alors que Luther prend grand soin de laisser au prince la responsabilité du temporel, Münzer, lui, en appelle au royaume de Dieu et à sa justice de suite. La question qui se pose est bien, où est l'au-delà ? Les querelles le concernant portent en réalité sur les choses de ce monde, d'accord, mais l'au-delà a la puissance d'advenir ici et maintenant, dans ce monde. Münzer, théologien de la Révolution, et Luther, partisan de la modération, croient en Dieu, mais aussi au diable. Dans les temps violents qu'ils traversent et qui sont pour eux brûlants comme l'Apocalypse, ils lisent les signes de Dieu, mais aussi du diable. Luther d'ailleurs dit « Qui a vu Münzer a vu le diable, en chair et en os ». Aussi, lui qui prêchait d'habitude la parole et l'éducation, demande-t-il au prince de jouer du poing, de l'épée et de l'arquebuse. La répression de masse qui va intervenir au printemps 1525 va constituer une rupture terrible dans l'histoire sociale, mais aussi une césure profonde dans celle de la réforme. Après sa lutte avec Münzer, le visage de Luther ne sera plus le même.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie d'Éric Vuillard, bonjour.
Bonjour.
Un livre cursif, La guerre des pauvres. Vous ne dites pas exactement La guerre des paysans, aux éditions Actes Sud, qui fait suite au prix Goncourt de 2017, qui était consacré à un autre épisode nodal de l'histoire allemande, 1933. Alors c'est un livre dont la parution était prévue depuis longtemps et a peut-être été accélérée par les événements que nous connaissons, puis c'est un livre qui en appelle peut-être un autre, hein, il faut le dire, ou c'est encore un secret ?
Oh, j'ai toujours plusieurs livres en cours, et parmi les livres qui sont en cours dans les tiroirs, il y a un livre effectivement sur Luther et sa confrontation.
Sur Luther. Moi qui comptais jouer le rôle de Luther, vous allez le tenir dans un prochain ouvrage, Éric Vuillard. Mais parlons d'abord économie et société. Alors là, le Saint-Empire romain germanique, cette partie de l'Allemagne, il y a l'Alsace aussi, bon, elle est plus dans le temps des hommes rares, comme au lendemain et au surlendemain de la grande peste du XIVe siècle. C'est un temps d'hommes pleins, ça veut dire de contradictions sociales et économiques.
Oui, c'est alors d'une certaine façon aussi toutes les époques le sont à certains égards. Mais c'est vrai que là, on a pour plusieurs raisons au fond une charnière. D'abord, on a aussi la personnalité de Charles Quint aussi qui règne sur un empire immense au fond et qui est jeune, qui vient d'arriver au pouvoir. On a effectivement des mutations aussi importantes. Tout d'abord, on a d'une certaine façon à l'horizon la constitution des États-nations et donc de nouvelles formes d'imposition qui viennent frapper à la fois le peuple, mais aussi les gens des villes, et puis un déséquilibre démographique, c'est-à-dire en tout cas énormément de monde. Une chose qui est frappante, c'est que si on devait faire un film sur ce temps, il faudrait parvenir à filmer des campagnes pleines. Il faudrait donc d'abord couper les arbres, voilà, un petit peu partout, et il est difficile de s'imaginer ce que pouvait être, à quel point en tout cas les campagnes...
Faire retentir le bruit provoquant des mines.
Oui, absolument.
Provenant des mines, parce que les mineurs vont être des associés des paysans.
Il y a des mineurs, il y a aussi des problèmes qui sont liés au fractionnement des terres. Enfin, c'est difficile d'en faire l'inventaire, bon, lié donc aux héritages. Et puis, un anticléricalisme croissant aussi chez les paysans, une grande méfiance. Et par ailleurs, on parle aussi d'écart qui se serait creusé entre les nantis et les pauvres.
J'ai noté la formule « s'il y avait à faire un film ». Encore une perspective ou un retour à ce que vous avez fait souvent, Éric Vuillard, puisque vous avez été cinéaste. Oui, tout ça se passe sur fond de réformation, avec, dans les instants qui précèdent la guerre des paysans, la traduction de la Bible en allemand par Luther, et la parution de milliers de titres sous forme, comment dire, feuille volante, disait-on. Prospectus, quoi, en somme.
Oui, c'est-à-dire que le livre, disons, enfin les événements du livre, La guerre des pauvres, se produit sur fond de réforme et sur fond d'une rencontre en fait singulière, on peut dire, entre la langue, un dispositif technique qui est l'imprimerie, et puis une idéologie, le christianisme ressaisi par la réforme. Et on peut dire au fond que l'imprimerie avant la réforme, c'est pas grand chose. C'est une invention technique merveilleuse, si on veut, mais qui sert à imprimer des bibles en latin, donc quelques exemplaires pour les clercs. C'est d'ailleurs une entreprise qui va faire faillite, en fait. Hein, Gutenberg fait faillite, c'est ressaisi par d'autres. Mais c'est, je pense, non seulement la rencontre avec la réforme, mais aussi avec la lutte politique, évidemment, ou la lutte spirituelle, enfin, qu'elle suscite. Et notamment, je crois que le point culminant là-dessus, c'est sans doute la diète de Worms, c'est-à-dire la confrontation entre donc à la fois d'un côté Charles Quint, le pouvoir catholique, et puis Luther. Puisque ce qui va permettre à Luther, à la différence de Jean Hus et de beaucoup de ses prédécesseurs, de ne pas terminer sur un bûcher, eh bien ce sont ces tas de petits prospectus qui circulent en allemand et qui font que le peuple, une grande partie du peuple, lui est favorable.
Et puis aussi des batteries de prédicateurs qui l'entourent de plus ou moins près. Alors il n'aime pas utiliser l'adjectif luthérien. Il dit « je suis un chrétien, je ne suis pas un luthérien ». Mais enfin, il y a des prédicateur luthérien. Un nommé Thomas Münzer en a été un à ses débuts, mais il a assez vite fait sécession. Thomas Münzer. Ça, c'est le personnage de la guerre des pauvres.
Oui, absolument. Parce que c'est un livre qui raconte, on pourrait dire, trois choses. Enfin, il raconte ce qu'on appelle la guerre des paysans ou le soulèvement de l'homme ordinaire, donc qui se passe en 1524-1525. Mais il raconte aussi, d'une certaine façon, il essaie d'épouser, en tout cas, une histoire des luttes au long cours. C'est-à-dire de saisir quelque chose de ce mouvement récurrent qui fait que des gens, luttent pour davantage d'égalité et de liberté, et du coup se soulèvent. Mais c'est aussi un portrait. C'est aussi un portrait parce que, en ce temps, les sociétés étaient beaucoup plus hiérarchiques, notamment justement autour de l'écriture. Et, la grande différence, par exemple, avec le 14 juillet que j'ai raconté dans un autre livre, c'est qu'on a besoin à ce moment-là, les paysans, les petits commerçants, les artisans ont besoin de personnes capables d'écrire et de lire pour faire circuler leur point de vue et leurs idées.
Donc, alors, les textes de Münzer, vous les connaissez, ils sont souvent chantés dans la tradition allemande, ils sont brûlants, forts. Du haut de sa chair, à Zwickau, plus tard, il sera à partir de 1522 à Hallstatt, aux confins du domaine de l'électeur de Saxe, qui est le protecteur de Luther. Il appelle à des luttes violentes, voire à des déprédations de couvents. Alors, je ne sais pas si c'est Münzer qui est responsable de la menace qui plane sur ces bonnes religieuses. C'est un film intitulé La guerre des Rustaux. Ça se passe en fait en Alsace, où Münzer passera d'ailleurs un moment.
Monsieur le chapelain nous apporte du monde des informations alarmantes. Le pays est à feu et à sang. Des hordes de paysans sans Dieu ont abandonné leur campagne et marchent sans ordre à l'aventure.
Mes sœurs, nous vivons un temps d'épreuve, il est vrai. Je reviens de Battenheim, où la population, rejetant toute attitude chrétienne, a fraternisé avec les mécréants de nos campagnes. Partout le tocsin sonne tout au long de la route de Bâle, réunissant des milliers et des milliers de paysans en révolte contre l'ordre de Dieu, depuis qu'ils suivent l'enseignement de ce Luther. Mes sœurs, J'ai vu dans le ciel des flammes qui dévoraient le prieuré de Lundberg. Rien n'arrête ces bandes sauvages qui déjà ont mis à mal le couvent d'Ottmarsheim et le prieuré de Saint-Maurin. Ma mère, rien ne les arrête.
Alors, il a tort, ce chapelain resté catholique d'un monastère qui a peut-être fait retour d'ailleurs à la stricte observance de s'en prendre à Luther, parce que Luther, quand Münzer organise des dépradations d'un couvent de cisterciens à Zwickau, il est appelé à la rescousse par les autorités et il dit il faut pas être brutal comme ça, il faut l'enseignement par la parole, vous savez, comme on donne de la bouillie aux enfants, pas trop chaude, pas brûlante.
Oui, alors juste pour resituer aussi, il y a évidemment plusieurs Luther, tout comme il y a eu plusieurs Münzer. Les gens évoluent et au fond on a là une séparation. C'est l'histoire d'une séparation. Alors le point important, c'est que d'une certaine façon, Luther a ouvert la boîte de Pandore, c'est-à-dire à partir du moment où il crée cette sorte de subjectivité qui va être la subjectivité moderne, à savoir une subjectivité critique, qui traduit, qui interprète, et où Luther dit que les autorités ecclésiales mésinterprète la Bible, la trahissent même, et bien évidemment, chacun peut se sentir à juste légitime pour l'interpréter lui-même. C'est ce qui va se passer avec Münzer et beaucoup d'autres. Zwickau, c'est un petit groupe de qu'on appelle les prophètes de Zwickau. L'un d'entre eux est tisserand, l'autre forgeron, et ils se sentent tout à fait légitimes, ils ont raison d'ailleurs, à interpréter la Bible. Alors, le premier Luther, celui des 95 thèses, n'est pas mal non plus dans le genre vitupérant, puisque la fin des 95 thèses, c'est qu'il s'en aille donc ces prophètes qui disent au peuple du Christ paix, paix, et il n'y a pas de paix. Qu'ils réussissent tous les prophètes qui disent au peuple du Christ croix, croix, et il n'y a pas de croix. Il faut exhorter les chrétiens à s'appliquer à suivre leur chef, le Christ, à travers les peines, les morts et les enfers, et à espérer entrer au ciel par de nombreuses tribulations, plutôt que par la fausse assurance
oui, mais,
que donne la paix.
Alors, il y a plusieurs Luther, là, il s'est institutionnalisé, il est sous la protection de l'électeur de Saxe, et il dit à Münzer, attention, le royaume de Dieu, il va pas comme ça tomber du ciel, tu vas pas pouvoir, de ton vivant, séparer ce qui est du pouvoir de Dieu, les exclus des élus, il faut laisser au temporel, la protection des intérêts du temporel et puis l'amélioration dans ce domaine, elle est très lente.
Alors ça se fait justement en plusieurs temps. Au début, lorsque il va y avoir des mouvements insurrectionnels, on peut dire des églises et des couvents pillés, et Luther, au fond, au tout départ, pense que ça peut être favorable, au fond, à la réforme naissante. Donc on peut pas dire, on le sent d'ailleurs, je crois, dans le passage des 95 thèses que j'ai lues, c'est un Luther beaucoup plus vigoureux, beaucoup plus épousant, beaucoup plus la violence que plus tard. Et puis ensuite, le pas d'après, je crois, c'est en 1520, lorsque il écrit donc à la noblesse chrétienne de la nation allemande. On voit que pour institutionnaliser la réforme, Luther a besoin des princes allemands. Et puis il sait à ce moment-là, au fond, qu'il ne peut pas s'appuyer sur, enfin, qu'il peut s'appuyer sur quasiment personne de la hiérarchie romaine. Donc il a besoin d'alliés. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que on peut dire quelque chose s'institutionnalise. Il y a à la fois une part stratégique chez Luther, et ça va prendre ensuite, ça va former, s'associer à ces deux concepts que sont le temporel et le spirituel. Et il va donc laisser non seulement le temporel tranquille, mais dire même qu'on a besoin de lui pour organiser le monde.
Dans cette période qu'il souhaite pacifier, 1523, 1524, en même temps qu'il traduit le Nouveau Testament, commence à traduire l'Ancien Testament, il produit beaucoup de ces cantiques qui se veulent joyeux et réconfortants. Comme celui-ci, 1523, qui est, disait Heine, la Marseillaise de la Réformation.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Eric Vuillard, un livre, La guerre des pauvres, la guerre des paysans de 1525 aux éditions Actes Sud. Ah, les lecteurs Frédéric le Sage, le protecteur de Luther, auraient bien voulu finir ses jours en entendant une musique de la sorte. Mais au moment où il tombe gravement malade, voici que ça semble de tous ces états des paysans révoltés. Et puis, il n'y a pas que les états de l'électeur de Saxe, d'un peu toutes les régions du sud du Saint-Empire, des paysans viennent pour s'assembler. C'est très important, le mouvement communal, la structure des assemblées villageoises, ça n'a jamais disparu, Éric Vuillard.
Non, c'est-à-dire que là, je pense que la démocratie, l'égalité et la liberté ont une histoire. Elles s'attachent toujours à des lieux. Et on peut dire que la commune en est un.
Le 7 mars 1525, l'Assemblée des paysans de la Forêt-Noire, de l'Algot et de la région du lac de Constance adopte les douze articles. C'est un texte très important.
Amis chrétiens, écoutez avec soin les 12 articles paysans.
Article premier. D'abord, nous voulons choisir nous-mêmes notre curé. Et pouvoir le chasser s'il ne se conduit pas comme il faut. Un curé devra nous prêcher l'évangile de façon à ce que tout le monde le comprenne. Pas de vobis cum, consum, seitum, etc., etc. Et rien que l'évangile.
Article deuxième. Puisqu'il est dit dans l'Ancien Testament que le nouveau a confirmé en tout point que les serviteurs de Dieu, le Seigneur, avaient le droit de recueillir la dixième partie de tous les fruits, nous voulons bien payer la dîme, mais de la façon qui convient.
Attention. On est bien d'accord pour payer la grande dîme, celle sur les fruits dont il est dit dans les testaments, là dont il parle, c'est-à-dire le grain, l'orge, l'avoine, le blé. Mais alors la petite dîme, là, celle sur les animaux qui viennent d'inventer, pas question. Notre Seigneur, il a créé les animaux pour tout le monde. Alors pas question qu'on paye sur les moutons, les vaches, les brebis, les cochons, ni même sur le fumier. Vous êtes d'accord? Alors on passera tout ça.
Article troisième.
Et ainsi de suite, jusqu'à 12, Serge Vita, le printemps des gueux à la télévision en 1977, le 12e, qui dit il y a des points que nous avons adoptés qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, nous nous fierons à la parole de Dieu qui doit donc tout déterminer. En même temps, les premiers articles dont on a entendu lecture, Éric Vuillard, Luther aurait pu les signer, l'élection des curés.
Oui, alors c'est néanmoins pas ce qu'il a fait. Alors tout d'abord, il faut dire une chose aussi sur la façon dont ont été rédigés ces articles. C'est le fruit de lettres de multiples de doléances au fond qui ont été rédigées, recueillies par un curé et un pelletier. C'est donc une sorte de processus démocratique tout à fait neuf en un certain sens et singulier.
Ça n'est adopté. C'est un peu comme pour les cahiers de doléances en France en 1989. Que ce qui requiert l'unanimité.
On a un processus absolument démocratique. Je vois
pas
on y entend
de quoi
des
vous voulez parler.
Bon, on continuez. Y entend des choses comme élire. On parle même de révocation au fond du pasteur. On exige des prêches qui soient à la fois sincères et clairs. On veut communaliser l'impôt. Donc voilà, ça c'est pour les 12 articles. Mais la réponse de Luther, c'est la justification du servage. Donc dans l'exhortation à la paix, il propose
ça,
aussi.
C'est le premier texte qu'il fait après. Le déclenchement de la guerre, l'exhortation à la paix.
Absolument, et il propose aussi une sorte de commission d'arbitrage, mais dans laquelle il n'y aurait aucun représentant des paysans. Et
c'est mais je me fais l'interprète de Luther, peut-être un jour ferez-vous un livre sur Luther. Il dit, un serf peut être libre. Enfin, je veux dire qu'un serf peut avoir une liberté intérieure. On peut être dans une situation absolument catastrophique, prisonnier ou serf, et être libre.
Je sais pas si la liberté intérieure vous suffirait, mais pour ma part, j'en exige une autre aussi. Et il a cette phrase, l'abominable injustice ne justifie pas la violence. Et c'est là le point de rupture avec Münzer, donc, qui est le protagoniste essentiel du livre, puisqu'à ce moment-là, d'abord, Luther a un coup de retard. Les châteaux brûlent déjà.
Alors, les châteaux brûlent déjà, et les monastères, ils sont habitués. Les paysans, jusqu'à quel point sont-ils nombreux? Jusqu'à quel point sont-ils armés? Alors, Serge Vita, toujours, le printemps des gueux. La tendance, c'est la vôtre, Éric Vuillard. Consiste à dire, ils n'ont que des fléaux, des bâtons, pas d'habitude militaire, alors leur viennent bien quelques idées.
Ils viendront nous cueillir un par un, pour nous accrocher à la branche d'un arbre.
Alors qu'est-ce qu'on va faire?
Pendant la guerre, comment ils font les gens pour se défendre?
Ah ben c'est simple, ils se mettent dans les villes, derrière des murs.
Seulement nous, comme il faut qu'on se déplace, ben...
On les emmène avec nous, nos murs.
Yo, yo, on va mettre des murs dans les charrettes.
Yerten, c'est nos chariots qu'on va fortifier, avec de bons gros volets bien épais qu'on mettra sur les côtés. Et puis comme ça, si on nous attaque, on met tous les chariots en rond, bien serrés les uns contre les autres, avec nous à l'intérieur, ça fait comme un château fort. Et par les meurtrières qu'on aura percées dans les volets, et ben avec nos arquebuses, on va empêcher les autres d'approcher.
Mais les paysans n'ont vraiment... en guise d'idées militaires que celles qui viennent de leur expérience du rapport avec la Terre. Ils n'ont pas des armes, ils n'ont pas des alliés.
D'abord, alors ils ont des alliés, c'est une histoire au long cours. Il y a évidemment plusieurs épisodes. Il y a le ralliement aussi d'aristocrates par moment, de bourgeois. On a donc évidemment des corps qui ressemblent davantage à des corps d'armée que d'autres. Mais il se trouve qu'au moment donc de la bataille de mai 1525 que je raconte dans le livre, une grande partie de ces troupes avaient déjà été.
Alors ça, c'est une bataille qui se situe où?
Qui se situe à, donc c'est la bataille de Frankenhausen, et c'est là que Thomas Münzer, lui, se trouve à la tête, au fond, ouais, des troupes, et où il va être défait. C'est donc un moment tout à fait singulier où finalement une grande partie déjà des troupes de ce qu'on appelle la guerre des paysans ont été progressivement défaites. C'est qu'une des façons d'abord de gagner les batailles et d'attaquer les corps d'armée quand ils sont divisés, et qu'une autre consiste notamment de la part des professionnels de ces choses, d'entamer des négociations, c'est-à-dire de faire en sorte que ceux qui sont moins habitués à faire la guerre, eh bien, discutent.
Vous avez tendance à avoir malice dans les négociations.
Oui, et pendant ce temps-là, surtout, se défont. Enfin, c'est-à-dire que quand vous n'avez pas lorsque vous êtes des mercenaires, il faut les payer. Voilà. Mais lorsque vous avez des paysans qui doivent aussi travailler, eh bien, il faut toute une intendance, et une guerre est une chose qui s'improvise.
Il y a des mercenaires aussi. On va prendre le cas de l'Alsace. Il y a un livre formidable de Georges Bischoff sur la guerre des paysans en Alsace, qui dit il y a, en ce temps de pression démographique, des tas d'hommes qui sont armés sur les routes et prêts à s'allier avec qui est le plus intéressant. Et puis, ils savent faire de l'arquebuse, ils savent faire de l'arbalète, ils chassent les paysans. Ils ont militaires, d'une certaine manière.
Alors, il y a un élément particulier aussi qui est lié à la présence de Münzer, justement. C'est que, d'une certaine façon, le millénarisme de Münzer espérait, évidemment, une sorte de miracle. C'est-à-dire donc, à cette bataille, les paysans et Münzer s'y rendent, en quelque sorte, avec Dieu dans la poche. Évidemment, Dieu n'a pas pourvu.
Mais c'est très important, le millénarisme, dans la représentation de Münzer. Il pense que c'est la fin des temps et que le partage va être fait entre les élus et les exclus, et l'épée de Dieu tranchée. Vous ne pouvez pas considérer ça seulement comme un habillage, c'est un langage.
Pas du tout, non, je le considère non seulement pas comme un habillage, mais je considère même que d'une certaine façon, ça engage évidemment une relation au temps tout à fait singulière, et du coup à la politique aussi singulière. C'est-à-dire que ça rompt avec l'idée sociale selon laquelle le départ entre les pauvres et les nantis serait en quelque sorte éternel. Non, le millénarisme fait pénétrer dans la pensée, au fond, cette possibilité que l'histoire sociale pourrait se terminer autrement, qu'on pourrait en tout cas avoir des étapes au moins. Je crois que, étrangement, ce spiritualisme très fort qui est le millénarisme peut, à terme, en se frottant aux événements, modifier instituer une sorte de rapport plus séculier, au fond, bizarrement, à l'histoire. Alors, une histoire qui ne soit plus seulement saisonnière.
Chaque révolution a redonné son interprétation de la guerre des paysans, qui est un événement extrêmement important. La révolution spartakiste, 1919-1920, anniversaire de la mort de Rosa Luxembourg, aujourd'hui, a produit le livre de Ernst Bloch, qui présente Münzer comme un théologien de la révolution. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous?
Justement, je crois que c'est lié juste à ce que je disais. C'est-à-dire, je pense que Münzer, enfin que les idées de Münzer, enfin que tout d'abord, quand on évoquait les 12 articles, là où Luther ne saisit pas que les châteaux brûlent déjà, Münzer, lui, non seulement le saisit, mais il y participe d'une certaine façon. Donc, il épouse l'événement beaucoup plus, si bien que sa théologie se frotte au fond aux événements et à la vie collective. C'est-à-dire, la grande différence entre Luther et Münzer, c'est aussi que Münzer est un itinérant. Il change tout le temps de place, il se frotte à des gens fort divers, et donc d'une certaine façon, il les écoute. Enfin, sa théologie est obligée d'intégrer à elle la vie, une partie de la vie
réelle.
Tandis
que Luther, qui se déplace aussi parfois, quand il fait une tournée autour de Wittenberg, au début de la guerre des paysans, il reçoit des
cailloux. Il est très sédentaire.
Non, mais là, quand il sort, il reçoit des cailloux et des injures. Ça vous rappelle rien. Grande, immense répression dont témoignent les peintres. Votre livre, à certains égards, ça ressemble au bois gravé que Cranach faisait sur les paysans, ou à cette colonne votive qu'avait imaginée pour la mémoire des paysans Dürer, ou à cette aquarelle que décrit le grand patriarche de France Culture, Claude Métra.
Au bord de l'eau, des amas gris, ce qui reste d'une cité, et un peu plus loin, un horizon légèrement vert. Du ciel tombent de grandes traînées bleuâtres qui, au milieu de l'aquarelle, s'épaississent jusqu'à devenir un énorme champignon noir. Comme si toute l'amertume contenue dans le ciel s'était brusquement écrasée sur la terre. Moisissure du monde, moisissure de l'âme, abstraction que plus rien ne saurait abolir. L'univers était devenu un gigantesque abîme, une douleur froide y régnait sans image ni pensée, le cauchemar même d'un dieu mort pendant son sommeil. Quelque part, à la lisière des forêts, la voix de Thomas Münzer, l'enfant d'Ézéchiel et de Jérémie, continuait à dire aux hommes l'émerveillement d'être au monde et la magie d'inventer le soleil au cœur des pierres noires.
Il faut du style pour évoquer cet événement, comme le génie de Dürer.
Oui, c'est beau. Et au fond, oui, vous parlez de gravure. C'est un petit peu comme ça que j'ai pensé le livre. C'est ce qu'on a au fond sur l'époque. Ce sont ces petites gravures. Alors, il y en a de très nombreuses d'ailleurs qui donnent un contour à cette révolte qui est à la fois nette, rude. Et puis il y a quelque chose. On est en noir et blanc au fond avec la gravure, et je sais pas comment dire. Enfin, ça a une magie tout à fait singulière, un peu comparée avec la photo en noir et blanc. C'est à la fois le passé, mais il y a quelque chose au fond d'éternel dans la gravure.
Le deuil mérite d'être long, parce que ce sont des dizaines et des dizaines de milliers de victimes qu'il faut compter. Cette émission a été préparée par Ilinka Negulesco, Frédéric Martin et Franck Olivard, la technique Clément Berman, la réalisation c'était Audrey Ripouille.